Avant d'inviter le prédicateur, j'aimerais que nous puissions juste faire quelque chose. Il y a des gens qui sont venus juste aujourd'hui. Ils n'étaient pas là les deux premiers dimanches. J'aimerais juste que... Je sais que nous avons eu beaucoup de bénédictions et j'aimerais qu'une seule personne va nous faire la bénédiction, en tout cas, qu'il a vraiment, vraiment touché. Et ça va aussi aider certaines personnes à être aussi édifiées pour ce que nous avons eu à voir les deux dimanches précédents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une bénédiction à nous partager? Bon, président d'abord.
Oui, bonjour à tous. Oui, moi personnellement, je suis... Que Dieu bénisse encore l'orateur, Papa Jérémy. C'est un grand message qui m'a personnellement béni et qui continue à me bénir. La partie où il parlait qu'il n'y a pas une grande bénédiction que d'avoir Dieu dans sa vie. C'est une partie qui m'a fort touché. Quand nous avons Dieu, nous sommes bénis. Donc, je me dis que je suis béni malgré tout parce que j'ai Dieu. C'est la partie qui m'a beaucoup plus béni la fois dernière. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bon, je vais vous faire ma bénédiction alors. Moi, j'ai été béni lorsque le prédicateur... Papa Jérémy nous a dit qu'il nous arrive, parfois le Seigneur nous préserve de l'exaucement de nos propres prières. Certaines fois, nous sommes en train de prier le Seigneur, nous lui demandons quelque chose et nous nous plaignons parce que le Seigneur n'a pas encore exaucé nos prières, mais le Seigneur nous préserve certaines fois de l'exaucement de notre prière parce que notre succès peut être la grande porte pour notre chute. Vraiment, ça m'a vraiment édifié. Que Dieu vous bénisse, Papa Jérémy. Je vais directement vous inviter à la chaire. Karibu Sana, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Karibu Sana.
Voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore une fois s'élever là où on se trouve pour lire la parole ensemble et après nous allons prier? Et merci pour les partages de ces choses-là, ça nous encourage aussi. Les choses que vous avez entendues et qui vous ont béni dans les messages. Aujourd'hui, nous sommes dans les livres de 1 roi, chapitre 19. Et nous allons commencer du 1er au 18e verset. 1 roi, chapitre 19, du 1er au 18e verset. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3, Élie voyant cela, s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et y passa et y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans les déserts où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » 6. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres, chauffé et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il s'éleva et mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. 9. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. » Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans les vents. Et après le vent, se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans les feux. Et après les feux, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étend à l'entrée de la caverne, et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel et le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » 15. L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Dama. Et quand tu seras arrivé, tu viendras Azaël pour roi de Syrie. Tu viendras aussi Jehu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu viendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jehu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jehu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. » Verset 19, Élie parta de là. Élie parta de là, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Dieu notre Père, merci pour cette parole. Merci parce que tu nous accordes encore une fois cette opportunité et cette grâce de nous retrouver dans ta présence, enfin d'écouter de ta part. Parle-nous, Seigneur. Nos cœurs, Seigneur, sont disposés à t'écouter. Nous croyons que cette parole sera encore une fois la vie, Seigneur, pour nos âmes, la vie, Seigneur, pour nos cœurs, pour nos esprits. Enfin, Père, que nous soyons réellement des personnes efficaces pour ta gloire, pour ta mission, et que nous soyons réellement la lumière et le sel de la terre. Merci, Seigneur, parce que tu vas parler. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Voilà, bonjour, bon après-midi. Vous allez bien? Voilà, je me rends compte que beaucoup de personnes n'étaient pas là, nombreuses personnes n'étaient pas là quand on a commencé cette série d'enseignements. Et donc, je vais vous donner juste peut-être un petit résumé de ce qu'on a dit depuis qu'on a commencé. Le thème s'appelle « Sans limites ». Au fait, il est venu d'une idée, d'une compréhension, de savoir que Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui n'est pas limité. Là où nous avons des limites, Dieu n'est pas limité. Là où nous avons... Des manquements, Dieu n'a pas de manquements. Dieu n'a pas été créé. Dieu existe par lui-même. Il n'a pas besoin d'air pour survivre. Il n'a pas besoin d'être nourri pour subsister. Il est là, il est Dieu. Il se suffit en lui-même. Il n'a pas les mêmes limites que nous-mêmes. D'ailleurs, cette prédication a été inspirée d'un message, d'un verset dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, qui dit « Or à celui qui peut faire infiniment au-delà, plus que ce que nous pensons ou demandons. » Il peut faire infiniment au-delà, plus que ce que nous pensons ou demandons à travers la puissance qui agit en nous. C'est vraiment venu d'une idée de savoir que nous avons un Dieu qui n'a pas de limites. Et cela doit nous pousser à la prière. Et l'une des premières prières qui nous a inspirées au courant des messages des deux dimanches passés, c'est une prière qui se trouve dans les livres de 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. Et c'est la prière d'un homme qui s'appelait Jaébé. Jaébé qui était face à des limitations qui étaient dues aux circonstances dans lesquelles il est né. Son nom lui-même, Jaébé, signifie douleur. C'était un enfant de la douleur. Mais dans cette douleur, il n'a pas laissé les circonstances et même les noms qui lui a été donné définir les cours de la vie. La Bible nous dit qu'il a invoqué les dieux d'Israël. Les dieux d'Israël qui est le Dieu qui n'a pas de limites, les dieux créateurs du ciel et de la terre. Il a invoqué les dieux d'Israël et il lui a dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, je suis limité, mais toi tu es capable de faire quoi? D'étendre mes limites. Et si tu fais quoi? Si ta main est avec moi et que tu me protèges, tu m'épargnes de la souffrance, tu m'épargnes du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu lui accorda toutes ces choses. La Bible nous dit que Dieu lui accorda toutes ces choses. C'était vraiment un appel à faire des prières plus ambitieuses, à faire des prières comme des personnes qui s'adressent à un Dieu qui n'est pas limité. Un Dieu qui peut tout faire, qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons même par la puissance qui agit en nous. Et Jaébé est l'exemple de plusieurs personnes qui ont été limitées, mais parce qu'ils se sont tournés vers Dieu, Dieu a changé le cours de leur histoire. Et nous croyons qu'à travers ces messages, nous pouvons aussi expérimenter ce Dieu sans limites. C'est Dieu qui élargit nos cœurs quand nous courons dans la voie de ses commandements. Ça aussi, c'était un verset que nous avons lu Que plus nous connaissons Dieu, plus notre champ de possibilités aussi s'élargit. Plus nous avons une bonne expérience, une profonde expérience de Dieu, plus notre champ de possibilités s'élargit. Parce que Dieu est infini. Dieu est capable de faire infiniment au-delà ce que nous demandons ou pensons. La semaine passée, nous avons aussi parlé du fait que Jabez, à part la bénédiction, il a aussi demandé la protection. Parce que nous pouvons demander à Dieu la bénédiction, oui, mais nous avons aussi besoin qu'il nous protège. Parce que Jabez, dans sa prière, il a dit, « Si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois dans la souffrance. » C'était une façon de demander la protection de Dieu. Il demande à Dieu de le protéger contre le mal qui pourrait être fait contre lui quand il est béni, ou le mal qu'il pourrait commettre parce qu'il est devenu, il est maintenant béni. Parce que nous avons vu l'exemple de plusieurs personnes qui, quand ils n'avaient pas encore grand-chose, ils étaient très fervents. Ils cherchaient Dieu de tout leur cœur, mais à partir du moment où Dieu les a bénis, Dieu les a élevés, ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont abandonné le Seigneur. Et nous avons posé la question de savoir à quel niveau Dieu peut t'élever sans te perdre. À quel niveau Dieu peut t'ennoblir sans te perdre. Parce que plusieurs personnes, il y a l'exemple de plusieurs personnes dans la vie et dans la Bible qui, quand Dieu les a élevés, quand Dieu leur a donné beaucoup de choses, tout ce qu'ils avaient demandé, même au-delà de ce qu'ils avaient demandé, j'ai donné l'exemple de Salomon. Salomon avait demandé à Dieu une seule chose. C'était quoi? La sagesse seulement. Mais Dieu a dit, à part la sagesse que tu me demandes, je t'ajoute aussi quoi? Des richesses, je t'ajoute aussi la gloire et beaucoup d'autres choses. Mais à un moment, ces choses-là ont atteint son cœur. Et quand elles ont atteint son cœur, il s'est retourné, il a changé. Et il a délaissé les dieux qu'il a élevés. Et c'était ça la question. Et c'est pour ça que nous avons dit que des fois, Dieu ne répond pas. Il protège, il nous protège, il nous protège de l'exaucement de nos prières parce qu'il sait que notre cœur n'est pas encore à la bonne place. Il sait que si à ce moment-ci, je t'accorde cette chose, c'est fini. Je vais te perdre, tu vas t'éloigner de moi. Et à ce moment-là, il te dit, attends. Et à la fin du message du dimanche passé, nous avons dit, nous avons besoin que Dieu sonde nos cœurs. Nous avons besoin que Dieu purifie nos cœurs. Nous avons besoin que Dieu puisse faire quoi? Qu'il puisse instruire nos cœurs, afin que nous soyons prêts. Et qu'au moment où il va nous donner ce que nous lui avons demandé, que nous ne soyons pas perdus, que nous ne puissions pas nous éloigner de lui, parce que nos cœurs ont été instruits. Parce que nos cœurs ont été préparés à toutes ces bonnes choses, ces grandes choses que Dieu avait préparées d'avance pour nous. C'était ça la conclusion du dimanche passé. Nous prions vraiment que Dieu nous protège du mal. Le mal qui pourrait faire contre nous à cause des facteurs extérieurs, nous avons vu que le monde dans lequel nous vivons est plein de challenges. Il y a des calamités, il y a des guerres, il y a des maladies, ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle mal. Et ce n'est pas une mauvaise chose de demander à Dieu de nous protéger contre ces choses. Nous avons aussi vu qu'il y a aussi des personnes qui intentionnellement, quand elles te voient t'épanouir, quand elles te voient t'élever, elles ne sont pas contentes. Elles ne sont pas contentes et elles peuvent chercher à faire quoi? À te rabaisser, à te faire du mal. C'est aussi une prière que nous pouvons faire de dire, Dieu, protège-moi contre les jalousies, protège-moi contre ainsi de suite. Mais nous avons aussi dit, nous avons demandé à Dieu de nous protéger contre les mal qui pourraient venir de nous. Parce que nous avons vu que le cœur de l'homme est comment? Est tortué par-dessus tout et personne ne peut le comprendre. C'est pourquoi nous avons demandé à Dieu de nous protéger contre les mal qui pourraient venir de nous. Amen. Parce que justement, un des exemples vraiment frappants de la Bible, c'est d'un roi qui avait tout ce qu'il voulait. Mais il a vu les champs de quelqu'un, qui s'appelait Naboth, et il a envié ses champs. Malgré tout ce qu'il avait, mais il a envié les champs d'un autre. Parce que c'est ça, au fait. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné beaucoup de choses que ton cœur change. Ce n'est pas parce que Dieu t'a élevé, que Dieu t'a béni, que ton cœur a changé. Parce que tant que ton cœur n'a pas encore été transformé par la parole de Dieu, n'a pas encore été instruit, tu seras un éternel insatisfait. Qui enviera même les petites choses des personnes qui n'ont même pas ce que tu as? Un peu comme le roi Achab qui avait fait quoi? Qui avait pris les champs de Naboth. Et il l'a même fait tuer. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans la même optique, mais cette fois-ci, nous n'allons pas parler de Jabez, mais nous allons parler du prophète Élie.
Parce que malgré que nous pouvons demander à Dieu de nous protéger contre le mal, au fait, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de troubles. Et Jésus lui-même a dit que dans ce monde, vous ferez face à des troubles. Mais prenez quoi? Hein? Take heart. En anglais, on dit take heart parce qu'il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Et aujourd'hui, nous voyons l'histoire d'un homme de Dieu qui venait d'une montagne. Il venait d'un moment de sa vie où il venait d'accomplir une très grande victoire. C'est comme si tu étais en train de prier pour quelque chose et enfin, cette chose-là vient de s'accomplir. Enfin, tu viens de recevoir la réponse à cette prière. Tu étais en train de prier pour ce boulot-là et enfin, tu viens recevoir ce boulot-là. C'est un peu comme ça qu'on retrouve Élie dans cette histoire, dans cette partie de la Bible. Il a demandé à ce qu'il puisse y avoir un contexte, qu'il puisse y avoir un moment où chacun va prouver qui est le vrai Dieu, entre lui et le prophète de Baal. Il revenait de cette victoire où il venait de prouver à ses faux prophètes qu'il n'y a qu'un seul Dieu et c'est le Dieu d'Israël. Il a demandé aux fées de descendre du ciel et les fées descendent. Les prophètes de Baal ont essayé toute la journée, ils se sont même lacérés, ils se sont blessés, mais ce n'est pas arrivé. Et donc, Élie revenait de ces moments-là de victoire. Mais après ces moments de victoire, nous nous rendons compte qu'il va entrer dans une période sombre de découragement et de dépression. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « De la caverne du découragement à la route des possibilités ». De la caverne du découragement à la route des possibilités. Pourquoi? Parce que le découragement, nous y ferons face tous un jour. Certains d'entre vous peut-être sont découragés en ce moment même où je parle. Et si tu n'es pas découragé, tu seras un jour découragé. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on est découragé. Et ça n'arrive pas seulement aux plus faibles. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on veut montrer aux gens qu'il faut être vraiment cette personne-là qui ne pleure pas, cette personne-là qui fait face aux difficultés, cette personne qui doit faire preuve de résilience, cette personne qui doit continuer malgré tout. Mais la réalité est que même les hommes les plus forts font face à des découragements. Parce que Élie est parmi les grands prophètes de la Bible. Mais à un moment dans sa vie, il a fait face à ces choses-là qu'on appelle les découragements. Et ce découragement est venu du fait qu'après cette grande victoire-là, il s'attendait probablement à une grande transformation dans la nation d'Israël. Il venait de démontrer combien il n'y a qu'un seul Dieu, le seul Dieu qui a fait descendre les feux du ciel et il a fait quoi? Il a brûlé les sacrifices. Il s'attendait peut-être que finalement tous les peuples d'Israël puissent se repentir et se tourner vers ce vrai Dieu-là. Mais la réaction était différente. La réaction était différente. C'est vrai qu'au moment, les personnes qui étaient là ont déclaré qu'en tout cas, il n'y a qu'un seul vrai Dieu et c'est le Dieu que nous venons de voir Élie invoquer à ce moment. Mais après cela, la nouvelle de ce qu'Élie avait fait est arrivée chez la reine Jézabel. La reine Jézabel qui n'était pas une personne qui aimait Dieu. C'était une reine qui adorait des idoles et spécifiquement une idole qu'on appelait Baal. Mais quand cette nouvelle est arrivée chez cette reine-là et qu'elle a entendu dire qu'Élie venait de faire tuer tous ses faux prophètes, elle a fait envoyer un messager à Élie. Et elle a dit, allez dire à Élie que je vais les tuer. Je vais les faire tuer. La Bible nous dit que Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette terre, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et donc c'était une menace qui venait de tomber après un grand moment de victoire, après un grand moment de joie. C'est comme si vous êtes en train de suivre un match de la Coupe du Monde et vous êtes sur le point de marquer le but que Shakura n'aind. C'est un peu ça, ce genre de surprise-là. Il y a une grande victoire, mais après, une mauvaise nouvelle vient s'emmener juste après la victoire. Et la Bible nous dit que quand Élie a entendu cette nouvelle-là, il a fui. Parce que cette reine avait la réputation d'avoir fait tuer plusieurs vrais prophètes de Dieu. Elle avait déjà tué et fait assassiner beaucoup d'autres prophètes. La Bible nous le dit dans les versets précédents. Et Élie n'avait d'autre choix que de faire quoi? Que de fuir. Mais dans sa fuite, il n'a pas pris le temps de consulter le Seigneur. Il n'a pas pris le temps de consulter le Seigneur. Et donc, je suis en train de dire que même les hommes les plus forts, les hommes et les femmes de Dieu les plus forts font face à des crises, des dépressions, des déceptions, des découragements. Ces crises peuvent être dues à des facteurs multiples. Ça peut être l'échec. Quand on a échoué, on est déçu, n'est-ce pas? On est découragé. On n'a même plus la force de recommencer. On n'a même plus la force de réessayer. Ça peut être le chômage, tu as toqué à plusieurs portes et jusque-là, on te dit toujours, en tout cas, on ne prend pas de nouvelles personnes. Ou bien tu es même arrivé jusqu'au point de passer une interview, mais on ne t'a pas retenu. Toutes ces choses-là peuvent nous mener à être découragés. Peu importe combien nous sommes forts, peu importe combien nous cherchons Dieu, nous ferons face à des troubles dans ce monde, parce que Jésus l'a prédit. Et ces troubles-là peuvent nous amener à faire face à la dépression, à la déception, au découragement. L'environnement sociopolitique qui n'est pas favorable peut aussi décourager, n'est-ce pas? Quand on regarde notre pays comparé aux autres pays, ça peut être très décevant. Ça peut être très décevant. Des fois, je suis les statistiques. Quand on classe, par exemple, les pays où il est plus facile maintenant d'investir dans l'entrepreneuriat, et je vois que notre pays n'apparaît nulle part. Ce sont des choses qui peuvent décevoir. Ce sont des choses qui peuvent décourager. On s'est dit, en tout cas, je ne vais pas essayer. On peut aussi être découragé parce qu'on a été rejeté. N'est-ce pas? Ça peut décourager. On a été rejeté. On a été mal compris. Il y a des personnes qui ont été mal comprises. Elles ont été découragées. Elles ont dit, en tout cas, je ne vais plus rien dire. Du coup, je ne vais plus rien dire. On peut aussi être découragé parce qu'on a perdu quelqu'un, quelque chose. Tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent nous décourager. Et dans le découragement, Élie a pris une attitude que beaucoup d'hommes et de femmes prennent des fois quand on est découragé. On fuit, on se renferme sur soi-même. On dit, en tout cas, je ne veux plus être blessé, je ne veux plus être rejeté, je veux juste me protéger. Ça, c'est l'attitude des personnes découragées. Ça peut aussi être ça. Ça peut être un échec qui fait que tu ne veux même pas en parler. Peut-être que vous étiez dans la même classe et tout le monde a réussi sauf toi. Ça, c'est un grand découragement. Vous n'avez plus le même langage et on a tendance à s'isoler. Et Élie a pris cette même stratégie-là de fuir. Et pourquoi je parle de cette fuite? C'est que dans cette fuite ici, il n'a pas consulté Dieu. Cette fuite est différente de la retraite qu'il avait prise dans 1 Roi chapitre 17. Parce qu'en 1 Roi chapitre 17, c'est Dieu qui le guidait, qui lui disait, va chez cette veuve, va telle part, va telle part. Mais ici, lui-même, il a eu peur. À partir du moment où il a vu la grandeur de la menace et du problème, il a fui, il a fui. Et beaucoup de gens, des personnes, quand elles sont découragées, nous avons tendance à nous renfermer sur nous-mêmes, à nous éloigner. Et dans la fuite, quand on s'isole des autres à cause du découragement, il y a des signes de la dépression qui commencent à se montrer en nous. Et Élie a montré tous ces signes. La première chose, c'est qu'il y a eu l'isolation. On nous dit que même dans sa fuite, il arriva quelque part et il y laissa son serviteur. Ça, c'est un signe de quoi? D'isolation, de solitude, où il laisse son serviteur et lui-même va quelque part. Il y a des sauts d'humeur où on est déprimé. Il alla dans le désert après une journée de marche et il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Ça, c'est un signe de dépression. Quand quelqu'un commence à demander la mort, c'est qu'il est déprimé. Il est déprimé. C'est un saut d'humeur. La peur, l'apitoiement. Son apitoiement, on peut le voir au moment où il est en train de dire, en tout cas, je suis seul. Je suis le seul qui est en train d'adorer le seul vrai Dieu. Je suis abandonné. Ça, c'est l'apitoiement. C'est s'apitoyer sur soi-même. Vous comprenez ça? L'apitoiement. Ce sont des signes. Ce sont tous des signes de la dépression. Se sentir inutile, indigne. Et tout ça, ça s'est vu dans la vie d'Élie. Parce que quand il est en train de dire, Seigneur, voilà, nous avons fait toutes ces choses, les feux descendus du ciel, mais les personnes n'ont pas changé. Au contraire, il y a maintenant cette reine ici qui est en train de me menacer. Ça, c'est aussi un signe où Élie sent que tous les efforts qu'il a fournis étaient inutiles parce qu'Israël n'a pas changé. Israël n'a pas changé. Il y a les pertes d'espoir, de confiance, il y a la colère, l'irritabilité, des pensées amères. Les personnes qui sont découragées, déprimées, ont des pensées amères. Elles ne pensent pas positivement sur les choses de la vie. Elles voient toujours les choses de manière négative. Elles ont toujours des pensées amères et négatives. Il y a également la fatigue physique. Mais ce que nous voyons dans ces passages, c'est que même dans notre découragement, Dieu reste une source constante de provision. Parce que si Jézabel a envoyé ses messagers, Dieu aussi a envoyé ses messagers. Dieu a envoyé un ange. On nous dit dans le passage qu'il y a un ange qui est venu vers Élie. Il se coucha et s'endormit et sous un jeûne. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Dieu reste une source constante de provisions, parce qu'il a aussi des messagers. Et des fois, dans notre dépression, on laisse les messagers de Jézabel nous empêcher d'écouter les messagers de Dieu. On laisse les mauvaises nouvelles nous empêcher de savoir que Dieu a toujours les derniers mots, que Dieu a encore des choses en réserve pour nous, que Dieu a encore des promesses dans sa parole qui peuvent s'appliquer à notre situation. Et ça, c'est un appel que je suis en train de faire à nous, que dans ton découragement, ne laisse pas la grandeur de ta situation t'empêcher d'écouter la parole de Dieu, t'empêcher d'écouter les promesses que Dieu a encore pour toi, les messagers que Dieu peut t'envoyer même quand tu es en train de traverser ces moments de découragement. Parce que Dieu a encore un message, Dieu a encore un confort, Dieu a encore un encouragement et une voie de sortie de n'importe quelle crise à laquelle on peut faire quand on est découragé. En fait, Élie, le problème qui était en train d'arriver ici, c'est qu'après avoir laissé la menace, il a vraiment changé son focus de Dieu vers la grandeur du problème auquel il faisait face. Il s'est focalisé sur le négatif. À partir du moment où cette reine a dit, en tout cas, toi, demain, tu ne vas pas vivre. En fait, il faut avoir reçu une menace de mort pour comprendre la grandeur de la menace à laquelle Élie faisait face. Demain, tu ne vas pas vivre. Et là, il a compris que basi, apa, vitu inaisha, vitu binaribika. Et il a même oublié qu'il n'y a pas très longtemps que Dieu a fait quoi? A fait descendre un feu du ciel pour consumer un sacrifice. Donc la première chose que nous devons savoir dans notre découragement, c'est que Dieu reste une provision, une source constante de provision. Parce que c'est un Dieu sans limite. C'est ça même le thème de cette série. Ne laissons pas les messagers de Jézabel nous empêcher d'écouter les messagers de Dieu. Parce que Dieu a encore un message. Dans ton découragement, Dieu a encore un encouragement. Dieu a encore une voie de sortie. Et quand l'ange arrive, il lui donne de la nourriture, il lui donne de la provision. La parole de Dieu doit toujours être notre provision, même quand nous sommes découragés. Parce que c'est ça même le message. Et quand il a cette provision, il lui dit, voilà, continue encore. Parce que c'est de l'encouragement que nous tirons la force de continuer encore. C'est de la provision de Dieu que nous tirons la force de continuer encore, même quand nous sommes découragés. Parce que c'est là qu'il nous rappelle que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Et quand tu reçois une parole pareille, tu te dis, ok, même si je suis découragé, même si j'ai été blessé, même si je suis dans la dépression, même si je n'ai pas envie de parler, même si je n'ai pas envie que les gens m'approchent, je vais continuer encore. C'est de cette provision que Élie a trouvé la force de continuer encore jusqu'à se retrouver à la montagne de Dieu qu'on appelle la montagne de Horeb. C'est de la provision de Dieu que nous trouvons la force de continuer encore. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long. » La Bible nous dit au verset 8, « Il s'éleva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. » C'est de la provision de Dieu qu'il a tiré la force de faire quoi? De continuer encore. Alors, je vais juste vous donner le deuxième point et on va prier. C'est de la provision de Dieu que nous tirons la force de continuer encore. Et donc, Élie a tiré la force de continuer encore de cette provision de Dieu. Et il est parti jusqu'à la montagne d'Horeb. Et là, Dieu lui a posé une question. Que fais-tu ici? Dieu, nous avons dit qu'il est un Dieu sans limite, un Dieu qui connaît tout. Il connaît même les plus profondes de nos pensées. C'est lui qui sent nos cœurs. Mais quand il pose la question, que fais-tu ici? Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas ce que Élie fait là-bas. Mais c'est parce qu'il veut amener Élie à s'exprimer, à dire... Quelle est la source de son découragement? Quelle est la source de sa dépression? Il veut qu'il amène Élie à ce moment-là où il va dire clairement. Dans la première partie de cette série d'enseignements, nous avons dit que nous sommes appelés à faire des prières qui sont simples, authentiques et honnêtes. C'est le même appel qu'Élie est en train de recevoir en ce moment où Dieu lui dit « Que fais-tu ici ?» Dieu ne pose pas la question pour savoir qu'est-ce qui a amené Élie en ces lieux, mais pour permettre à Élie de déverser ses soucis, d'en parler. Il veut aussi amener Élie à réfléchir à ce qu'il a amené dans cette caverne, dans un premier lieu. Et même dans notre découragement, Dieu nous appelle à nous déverser sur lui. Parce que le découragement n'est pas un endroit où nous sommes appelés à rester. Être déçu, être découragé, ce n'est pas un endroit où nous sommes appelés à rester. Ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus qui nous amène à être les personnes que Dieu veut que nous soyons. En fait, pour que tu sois cette personne-là, cette stature parfaite que Dieu veut que tu sois, il faut que tu passes par tous ces moments-là. Parce que tous ces moments sont en train de te forger. Tous ces moments sont en train de faire de toi une personne plus mature, une personne plus sage et une personne qui pourra aussi encourager les autres. Parce qu'il faut passer par les découragements pour savoir comment encourager aussi les autres. Il faut passer par des moments difficiles, des pertes, des moments difficiles, d'échecs, pour savoir aussi comment parler à ceux qui ont fait face à l'échec. Amen. Et c'est là que Dieu est en train d'appeler Élie à s'exprimer. Élie s'exprime. Il dit tout ce qu'il ressent dans son cœur. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Et quelles sont les choses qu'Élie avait sur son cœur? Quelles sont les choses qui avaient mené Élie dans ces moments-là de découragement? Et c'est peut-être ces choses-là qui sont aussi en train de nous décourager maintenant, qui font que nous sommes facilement décourageables. Vous savez, il y a des personnes qui sont difficilement décourageables. Il y a aussi des personnes qui sont facilement décourageables. Et je vais vous donner juste un premier facteur d'une personne qui est facilement décourageable. Les personnes qui se découragent vite. Les personnes qui se découragent vite, la première chose qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ont des attentes irréalistes. On a des attentes irréalistes. Avoir des attentes irréalistes ou avoir des attentes qui ne correspondent pas à celles de Dieu. Ça, c'est la première chose, c'est la première marque des personnes qui sont facilement découragées. J'ai dit au début de ce message qu'Élie s'attendait à un grand réveil spirituel. Il s'attendait à ce que la nation d'Israël puisse se tourner vers le vrai Dieu. Après la victoire sur l'adoration de Baal, après le moment où le feu descendit du ciel, Élie s'attendait à ce que tout le monde s'incline devant Yahweh. Mais ce n'est pas ce qui était arrivé. Ça, c'était son attente, mais ce n'était pas encore le moment de Dieu. Ce n'était pas encore le moment où Dieu devrait se débarrasser totalement de toutes ces choses-là, de toutes ces fausses, de toutes ces idoles et de tous ces faux prophètes. Au contraire, après avoir réussi une très grande victoire comme ça, c'est la vengeance de la reine Jézabel qui a commencé à les poursuivre. Donc la première chose que je suis en train de dire pour être facilement décourageable, c'est qu'on a des fois des attentes irréalistes. Des attentes irréalistes. Des attentes irréalistes dans les relations, des attentes irréalistes dans les études qu'on désire faire. Des fois, vous savez, vous mettez la pression sur les parents, vous dites, bon, moi, je vais aller étudier en Afrique du Sud. Tes parents sont seulement capables de te payer l'ICI. Ça, c'est une attente irréaliste. Et tu es découragé. Mais c'était quoi? C'était une attente irréaliste. Avoir des attentes irréalistes peut facilement nous mener dans le découragement. Et je suis en train de dire que les attentes irréalistes peuvent aussi être dans les relations. Où tu te dis, en tout cas, moi, l'homme que je vais recevoir dans ma vie, il faut qu'il soit tout accompli. Il faut qu'il ait 1m80. Il faut qu'il soit brun, des oreilles bien alignées, un nez qui est bien à sa place, pas très gros et pas très petit. Des attentes irréalistes. Il faut qu'il s'habille toujours très bien. Et même quand il court, quand il fait du jogging, il ne faut pas qu'il sue. Attentes irréalistes. Des attentes irréalistes. Il faut qu'il ait une voiture. Il faut qu'il ait déjà construit une maison à Keshero, à Himi, à matériaux. Une maison à matériaux. Des fois, on a des attentes irréalistes. Et Dieu te présente un bro qui n'a qu'une vision et qui te dit, voilà, je t'aime. Et tu te dis, oh non, c'est pas ça. Découragement. C'est quoi? C'est une attente irréaliste. Donc, il faut y aller mollo mollo. Avec Dieu, il faut aussi revoir ses attentes et savoir, est-ce que réellement, je ne suis pas en train d'aller au-delà de la provision actuelle de Dieu pour ma vie? Parce que c'est comme ça que beaucoup de personnes se retrouvent dans des dettes. C'est comme ça que beaucoup de personnes se retrouvent dans une vie de fantaisie. N'est-ce pas? Où il paraît ce qu'il n'est pas. Il veut toujours être comme il est ma image de Nikonazo à cause des attentes irréalistes. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et nous allons continuer, j'espère, quand Dieu nous en donnera l'occasion. Je prie que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole.